Vous êtes sur RTL.
C'est avec Amandine Mégot. Et à 8h41, une question ce matin. Le coronavirus est-il un tue-l'amour, Amandine ?
Oui, ça peut paraître futile, secondaire, et pourtant, à l'heure où l'on nous demande de ne plus nous serrer la main, d'éviter les contacts trop collés, serrés, je suis sûre que vous êtes nombreux à y avoir pensé à un moment ou à un autre. Eh bien, nos confrères de l'agence France Presse ont mené l'enquête. Direction d'abord l'un des temples du sexe à Paris, un club échangiste. Le masque, c'est son nom, ça ne s'invente pas, je vous assure, c'est son nom. Depuis une semaine, cet établissement a vu sa fréquentation baisser de l'ordre de 30%. La direction a installé du gel hydroalcoolique, des masques chirurgicaux à l'entrée, masques indispensables en temps normal pour pénétrer dans cette enceinte. D'habitude, c'est plutôt dentelle ou style vénitien, mais par les temps qui courent, la version hôpital, nous dit l'AFP, fait largement l'affaire. Autre lieu de drague, les réseaux sociaux et notamment les applications de rencontres.
Oui.
Tinder, la plus célèbre du genre, a pris, figurez-vous, un certain nombre de mesures ces derniers jours, preuve une fois encore que la question mérite d'être posée. Elle met en garde ses utilisateurs et rappelle qu'entre deux matchs, entre deux échanges virtuels, il faut correctement se laver les mains. Elle liste toutes les consignes de l'OMS. Après, ça n'empêche pas visiblement les adeptes de passer à l'acte. Leïla, par exemple, a vu ses propositions de rendez-vous plus ou moins galants se multiplier ces derniers jours. J'ai l'impression, dit-elle, que ça booste, tout le monde se connecte, se décoince. Lors de son deuxième rendez-vous avec Olivier, Camille reconnaît s'être posé pas mal de questions liées au virus. Les deux trentenaires se sont finalement, explique l'AFP, retrouvés au cinéma. Devant le film, il m'a proposé de boire dans sa boisson avec sa paille. J'ai réfléchi quelques secondes avant finalement de dire oui, de peur, dit la jeune femme, de jeter un froid. Même retour dans les bars parisiens, le virus serait même, figurez-vous, une bonne entrée en matière. C'est ce que nous disent quatre hommes, la quarantaine. Accoudé dans un pub des grands boulevards, c'est un bon sujet de conversation, explique-t-il. Ça nous arrange pour aborder les filles. Je vous laisse faire le test. En attendant, la règle, vous le savez, c'est le lavage des mains toutes les heures. On ne le répétera jamais assez et correctement, pendant 25 ou 30 secondes, pas moins. Et si vous avez encore besoin d'être convaincu, allez jeter un œil sur ces images qui circulent sur les réseaux sociaux. Vous les avez vues, Yves, 6 photos d'une même main prise avec une lumière noire. Alors on les voit, ces mains, avant le lavage, après un simple rinçage, après 6 secondes sous l'eau mais sans savon, après 6 secondes sous l'eau et avec du savon, après 15 secondes, puis après 30 secondes, et le résultat est éloquent. Seul un bon et vrai lavage de 30 secondes avec le savon est efficace, on voit des mains nettes. Lavage que l'on doit, figurez-vous, un obstétricien hongrois, un certain Semmel Weiss, c'est ce que nous raconte ce matin le Figaro. Au milieu du 19e siècle, ce médecin a été, figurez-vous, rejeté par ses confrères et banni des maternités. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il exigeait du personnel qu'il se lave les mains avant les interventions et qu'il nettoie avec soin les instruments utilisés. Ça paraît fou. C'est lui le premier à avoir énoncé les principes de l'asepsie. À l'époque, explique le Figaro, il s'intéresse à la fièvre puerpérale, une forme de septicémie à l'origine d'hécatombes dans les maternités européennes. Et il s'aperçoit, notamment à Vienne, que les femmes meurent moins dans la maternité qui est gérée par les sages-femmes que dans celle où ce sont les étudiants en médecine qui opèrent, des étudiants qui vont et viennent de la salle d'accouchement à la salle d'autopsie. Il avait compris, écrit Sébastien Lapac, que l'origine de la mort était à chercher dans l'hygiène des mains, mais impossible au milieu du 19e siècle de prouver quoi que ce soit. Ces particules étaient en effet encore invisibles au microscope. Son malheur, écrira un certain Louis-Ferdinand Céline, a été de toujours chercher les microbes sans les voir. L'auteur de Voyage au bout de la nuit en effet consacré sa thèse de doctorat à ce fameux docteur Semmel Weiss. Nous sommes alors en 1924, soit près de 60 ans après la mort du médecin, tombé dans la folie sans jamais avoir réussi à convaincre ses pairs. C'est passionnant et c'est donc à lire ce matin dans le Figaro.
Formidable revue de presse signée Amandine Bégot. Dans un instant...